Bonjour.
Bienvenue
sur la
web radio
du Chemin Rouge.
Bonjour à tous et bienvenue sur la web radio du Chemin Rouge. Aujourd'hui, on parle beaucoup de santé mentale, que ce soit à la radio, à la télévision, sur les réseaux, sur les panneaux d'affichage. Mais qu'est-ce que c'est réellement ? Qu'est-ce que cela représente ?
Comment peut-on expliquer ces phénomènes qui peuvent engendrer de grandes difficultés chez nous ? Pour en échanger aujourd'hui sur ce podcast, nous avons l'honneur d'avoir deux professionnels autour de la table. Jean-François, je ne sais pas si je fais bien le Bar, et Benjamin
Bancard, pareil.
Voilà. Désolé.
Merci pour cette présentation. Pour faire mieux comprendre aux auditeurs et auditrices, est-ce que vous pourriez expliquer rapidement les domaines où vous intervenez ?
Je vais commencer. Donc, moi, c'est Bancard Benjamin. Déjà, merci à vous pour cette invitation. Pour être plus précis, je suis psychologue du travail. J'interviens principalement dans le champ de l'insertion professionnelle, où j'accompagne différents publics en vue de leur permettre une insertion durable à l'emploi.
D'accord.
Et donc, moi, je suis François Barre. Merci également pour cette invitation. Je suis psychologue clinicien et j'exerce donc sur phase juvénile en libéral, en cabinet.
Ça marche. Merci à vous. Alors, pour commencer, est-ce que vous pourriez expliquer de manière globale qu'est-ce que c'est la santé mentale pour vous ?
Alors, pour moi, je n'aurais pas la prétention de pouvoir définir un concept aussi complexe, et je vais simplement appuyer sur la définition de l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, qui définit ça comme un état de bien-être dans lequel la personne peut se réaliser, faire face au stress normal de la vie, accomplir un travail productif et contribuer à la vie de sa communauté. Et à travers cette définition, je pense que du coup, on comprend bien que c'est un état en tout cas qui est accessible à tous et pour tous. Et du coup, quand on parle et quand on pense à la pathologie en termes de santé mentale, on comprend très vite du coup les conséquences que ça peut avoir sur la vie personnelle à travers effectivement le fait de ne pas pouvoir se réaliser, de ne pas faire face au stress normal de la vie. À travers la vie aussi, des conséquences donc sur la vie professionnelle également, accomplir un travail productif, et également des conséquences dans la vie sociale, c'est-à-dire le contribuer à la vie de sa communauté. C'est-à-dire que la santé mentale, ça touche tout ça, ça touche la personne dans sa vie personnelle, ça touche la personne dans sa vie professionnelle, ça touche la personne dans sa vie sociale, on va dire. Voilà, c'est les trois champs un petit peu dans lesquels on peut effectivement évoquer la santé mentale.
Ça marche. Et pour toi, Benjamin ?
Effectivement, c'est une définition très complète de la santé mentale. Je vais poursuivre en énonçant la définition toujours selon l'OMS de la santé. La santé est un état complet de bien-être physique, mental et social. Et la suite est importante et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. C'est vrai qu'on a tendance à parler de la santé mentale comme une absence de négation, à savoir je n'ai pas de maladie, je ne me sens pas mal aujourd'hui, mais ça va bien au-delà. C'est aussi le fait de pouvoir s'épanouir. Nous, on aura l'occasion d'en échanger un peu plus profondément au cours de ce podcast.
Qu'est-ce que ça représente pour les personnes ? Qu'est-ce que ça représente la santé mentale en fait pour une personne ?
Ok. Qu'est-ce que ça représente ? Moi, j'ai rapproché ça, la notion de santé mentale aussi, à la fois la notion de subjectivité, c'est-à-dire la façon dont chacun se vit, dont chacun existe, à l'intérieur de lui-même comme à l'extérieur. Chaque personne dispose de sa propre subjectivité et donc, l'expression de sa santé mentale va dépendre en fait de tout à chacun. On n'a pas tous la même façon, si on reprend la définition, de se réaliser. On n'a pas tous la même façon de s'épanouir professionnellement, on n'a pas tous la même façon d'être en famille, etc. etc. Donc chacun va trouver un petit peu sa propre représentation, puisque c'est la question de ce que c'est la santé mentale. Et du coup, j'avais développé. Moi, j'avais groupé vos deux questions ensemble. Mais du coup, je vais laisser mon collègue répondre pour développer.
J'ai fait exactement la même chose. Mais effectivement, c'est vrai que la santé mentale a plutôt tendance à être vécue comme, on en parle souvent en négation, malheureusement, comme une souffrance. Effectivement, qui peut empêcher de se réaliser. Et on va observer vraiment un effet de rétroaction, un cercle vicieux. C'est-à-dire qu'en se sentant mal, justement, en ressentant ces symptômes propres à la santé mentale, on peut se sentir de moins en moins armé pour s'épanouir, ce qui va entraîner également une altération de la santé mentale. Et on peut très vite, effectivement, arriver dans un cercle vicieux où on ne se réalise plus et on se sent parfois de plus en plus mal.
Est-ce que c'est simplement le moral ou c'est un état plus profond que le moral, en fait?
Alors effectivement, ça, je vais me permettre d'y répondre le premier, et ça a été dit, effectivement, c'est beaucoup plus profond, puisque la santé mentale va également toucher, altérer, positivement comme négativement d'ailleurs, la santé physique, mais également la santé sociale. Par exemple, lorsqu'on ressent une certaine souffrance mentale, on peut également subir différents troubles, comme des troubles du sommeil ou encore des troubles alimentaires, qui eux-mêmes vont toucher un aspect de la santé qui est assez important, qui est prépondérant même, et on sait très bien que le sommeil et l'alimentation peuvent également avoir un effet sur la santé mentale. Donc effectivement, c'est bien plus vaste que ça. L'une des caractéristiques aussi d'une altération de la santé mentale, ça peut être aussi une tendance à l'isolement, au fait de s'isoler, ce qui va directement entraîner une altération de la santé sociale. Donc effectivement, la santé mentale est beaucoup plus vaste que la simple notion de morale.
D'accord. Ah, quand même.
Oui. Effectivement, c'est à peu près ce que j'avais prévu comme type de développement. C'est-à-dire qu'effectivement, le moral, on peut rapprocher ça de l'humeur. C'est-à-dire c'est ce qui va donner la teinte, la tonalité de nos expériences quotidiennes. La saveur un petit peu de ce qu'on vit au jour le jour, ça peut être variable d'un jour à l'autre, d'une heure à l'autre, parfois même plus rapidement que ça. Et en général, ça oscille autour d'une ligne plutôt neutre. Voilà. Bon, quand les oscillations sont trop grandes en termes d'humeur, on rentre dans la pathologie, mais ça c'est une autre question. Et donc en fait, le concept d'humeur, c'est en quelque sorte ce qu'on donne à voir aux autres de ce qu'on vit à l'intérieur et comment on le vit. Mais ça ne veut pas forcément dire justement que ce qu'on vit, c'est pathologique ou c'est pas pathologique. C'est juste la couleur, c'est un peu ce qu'on donne à voir de ce qui se passe à l'intérieur. Voilà, je pense que on est bon pour cette notion-là.
C'est parfaitement exprimé.
D'accord. Que pensez-vous de la santé mentale? Est-ce que c'est tabou chez certaines personnes?
Déjà, il y a une difficulté qui réside dans l'estimation de l'altération de la santé mentale. C'est vrai que pour faire l'analogie avec une problématique physique, ça peut s'observer de différentes manières, notamment en réalisant une radio, une IRM ou ce type de test. La santé mentale, elle est beaucoup plus invisible et une souffrance mentale est beaucoup plus difficile à cerner. Elle peut être aussi beaucoup plus difficile à exprimer, puisque parfois, ça peut être le fait d'être résilient, de se dire que finalement tout va bien et que c'est une simple difficulté, que c'est normal, alors qu'effectivement, on peut arriver, comme François l'a très bien dit dans le pathologique, des variations d'humeur. Effectivement, on en ressent tout au long de notre journée, et c'est, entre guillemets, le terme n'est pas adéquat, mais normal. C'est dès lors qu'on va arriver dans certains extrêmes qu'on va pouvoir parler de pathologie, et là, effectivement, on peut en arriver à une altération réelle de la santé mentale avec toutes les conséquences que ça entraîne.
D'accord.
Donc la question, pourquoi pensez-vous que la santé mentale est tabou pour certaines personnes? Je crois que ce qui est tabou, c'est pas forcément la santé mentale, c'est les difficultés en santé mentale qui sont peut-être porteuses d'un certain tabou. Comme toujours, quand on parle de tabou, on va plutôt se rapprocher de notions larges de psychologie sociale. Et moi, j'ai rapproché ça de la notion de stéréotype, c'est-à-dire des idées qu'on peut avoir, que l'on se fait d'une chose avant de connaître la chose. C'est globalement un stéréotype. Après, du coup, si on associe à ça le fait que j'aime ou que j'aime pas telle chose avant de l'avoir connue, là, c'est un préjugé, du coup. je me fais déjà l'idée et j'ajoute quelque chose de positif ou négatif. Et après, du coup, le troisième volet, c'est la discrimination, où là, j'agis en conséquence, en suivant ce préjugé et ce stéréotype. Mais là, en tout cas, je pense que ce qui peut être actif dans la notion de difficultés mentales qui sont tabous, qui seraient tabous, c'est vraiment effectivement le stéréotype, parce que je pense qu'il y a un discours qui a un peu infiltré la société en général, qui est celui de, voilà, dans les médias, dans les entreprises, voilà, il faut être en bonne santé, donc il y a plein d'épanouissement personnel, de coaching, de développement personnel, on voit vraiment c'est très à la mode. Et du coup, je pense que ça renforce aussi, pour le coup, alors, ça renforce un petit peu les gens dans leur sentiment qu'ils peuvent avoir d'être en décalage par rapport à ça. C'est-à-dire que plus ce discours il va être vraiment prédominant et absolument regardé comme étant celui qui doit être dominant, bah plus effectivement il y aura ce décalage qui va se produire, et la notion un petit peu de tabou en disant oula, si moi je commence à balancer que j'ai des idées noires, je vais me faire regarder comme le mouton noir de l'histoire, je vais pas en parler. Et donc voilà, j'ai rapproché ça un peu de cette idée là. Voilà, je pense qu'après, c'est tout à chacun aussi qui a aussi ses propres représentations. On n'est pas non plus complètement assujetti à la société, heureusement.
L'anxiété mentale, c'est qu'une seule identité ou c'est plus large, en fait? Parce qu'on dit santé mentale, mais est-ce qu'il n'y a pas plus de petits groupes, par exemple schizophrénie, tout ça, est-ce que ça ne fait pas partie d'un tout, en fait?
Ouais. Donc là, vous faites référence à travers l'exemple de la schizophrénie ou la dépression, on pourrait dire aussi. Voilà. Ça, ce sont plutôt des catégories qui sont des catégories diagnostiques, des catégories de la pathologie. Avec le concept de santé mentale, on est vraiment plutôt, je dirais, dans l'aspect plutôt normatif de ce qu'on devrait donner à voir, ce qu'on devrait être à ressentir. Donc ce qu'il y a de pluriel dans l'entité santé mentale, ça va être les aspects qu'on a rappelés là de la définition de l'OMS. Des aspects plutôt personnels, des aspects plutôt familiaux et en lien avec les autres, et des aspects plutôt professionnels. Après, c'est quand on glisse vers une pathologie de la santé mentale, du coup, effectivement, bah là, on va avoir des façons de ranger ce qu'on observe, c'est-à-dire bah, plutôt en fonction des troubles de l'humeur, on a parlé des troubles de l'humeur, voilà, on va avoir une certaine grille. Après, en fonction des façons d'être au monde, donc vous soulignez la schizophrénie, effectivement, c'est une façon d'exister au monde qui est plutôt rangée dans le cadre des troubles psychotiques, voilà, c'est une autre catégorie. Chez l'enfant, c'est encore différent. Chez l'enfant, il y a d'autres classifications. Mais en soi, je pense pas que ce soit forcément santé mentale un concept à mettre au pluriel. Pour moi, c'est un concept. C'est un concept, mais qu'on peut aborder par différents points d'abord.
Voilà. Effectivement, c'est un excellent résumé. Je vous rejoins parfaitement sur l'idée qu'on peut parler de santé mentale au singulier, mais qui va se distinguer à travers différents troubles au pluriel, et différents symptômes également au pluriel.
Ça marche. Comment peut-on voir une personne qui est en souffrance? Est-ce qu'il y a des signes ou quelque chose?
Alors effectivement, la santé mentale peut s'observer. On parle bien de pouvoir s'observer, ce n'est pas une certitude. Je rappelle que la santé mentale va s'observer à travers notamment une modification de l'humeur, mais de manière habituelle. Effectivement, c'est normal que l'humeur puisse fluctuer dans le temps. Encore une fois, il y a cette notion d'inhabituel et sans raison apparente qui est importante à considérer. On observe également comme signe un isolement social, avec les conséquences sur la possibilité de se faire accompagner, puisqu'évidemment, quand on a tendance à s'isoler. Si on ne communique pas, ça peut être beaucoup plus difficile par la suite d'avoir un soutien nécessaire, que ce soit de la part de la famille, des amis, des proches, pour pouvoir par la suite être accompagné. On peut observer également différents troubles cognitifs qui peuvent être liés notamment à la mémorisation, à des difficultés de réfléchir ou encore à des difficultés de maintenir son attention. On observe également des troubles du sommeil avec des difficultés à s'endormir, mais également le fait de se réveiller la nuit sans forcément de raison apparente. On observe également une modification de l'appétit, que ce soit une augmentation ou une diminution. Un pessimisme de plus en plus persistant qui peut s'accompagner par une perte d'intérêt pour les activités quotidiennes qui autrefois étaient particulièrement appréciées. Une augmentation de la consommation, pas forcément de nourriture, mais aussi de substances qu'on peut appeler psychoactives, comme notamment drogue ou consommation d'alcool, et également des pensées suicidaires. Je tiens quand même à rappeler à propos des pensées suicidaires, il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai encore entendu une phrase particulièrement absurde, et je tiens à le souligner. Ce que j'ai entendu, c'est lorsqu'une personne souhaite se suicider, elle ne le dit pas, elle le fait. Donc une personne qui va annoncer avoir des pensées suicidaires quelque part, c'est pas dangereux, si, bien au contraire. Ce sont des propos qui sont absolument à considérer, et il existe des structures et également des numéros dans lesquels il y a des professionnels qui sont à l'écoute. Pour rappel, c'est le 3114. Lorsque vous entendez, que ce soit vous-même ou également vos proches, qui prononce justement ce type de propos, qui parle de pensée suicidaire, il ne faut surtout pas le prendre à la légère et il faut entamer une démarche le plus rapidement possible.
Ça marche.
Oui, effectivement, j'allais parler après du 31-14. Du coup, je ferai une piqûre de rappel après sur la question suivante. Comme ça, les gens ils vont bien l'entendre et ça va bien se marquer dans leur esprit. Moi, j'avais juste, quand j'avais réfléchi à la question de la souffrance, j'avais juste extrait une petite phrase de René Roussillon, qui est un clinicien qui travaille à Lyon dans son manuel de psychologie et psychopathologie. Voilà ce qu'il dit. « Vivre, c'est non seulement rechercher le bonheur, mais également affronter toutes les sortes de souffrances liées à des pertes, des désillusions, des séparations, des sacrifices, des renoncements. Une certaine dose de souffrance accompagne toute existence humaine. Le problème est de savoir à partir de quel moment cette souffrance devient intolérable ou oriente radicalement l'existence dans un sens qui n'autorise plus suffisamment un suffisant épanouissement. » Voilà.
Très belle
définition. Donc on est, j'ai trouvé aussi, c'est pour ça que je me permets de la lire, on est effectivement sur, qu'est-ce qui fait que, comment est-ce qu'on voit qu'une personne est en souffrance ? Alors effectivement, il y a l'ensemble des signes que vous avez détaillés et qui sont tout à fait opportuns. Ceci dit, quand moi j'ai réfléchi à la question, je suis pas du tout parti sur cette liste-là. Je suis parti sur plutôt un exercice et je vous propose d'y participer. Vous croisez dans la rue ou dans un parc une personne qui pleure. Si je me limite seulement à ça, est-ce que cette personne est en souffrance ?
Moi, je dirais quoi quand même ?
Ouais.
Parce que c'est pas normal que si on va dire que là il fait beau et tout et qu'elle pleure, faut déjà savoir pourquoi elle pleure.
Mmh.
Est-ce qu'il y a vraiment une raison ? Si elle dit, ça peut être pour plein de raisons, donc faut vraiment savoir pourquoi. Et pas la laisser toute seule, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer après ça.
Mmh. Ok, donc pour vous, c'est plutôt oui, peut-être. Elle est peut-être en souffrance, mais il faut enquêter, quoi.
C'est ça.
J'aurais dit pareil, aller voir la personne, demander comment ça se passe, pourquoi elle pleure, savoir tout ça, essayer de résoudre si on peut.
Eh bien, j'ai la réponse. J'ai la réponse, elle vient faire piquer son chien, qui était son animal de compagnie depuis 10 ans. Qu'est-ce que vous pensez de cette souffrance ?
Moi, je l'ai déjà vécu, donc c'est une passe un peu difficile.
Ouais. C'est une passe un peu difficile, vous dites, ouais.
C'est comme si on perdait un être humain, donc.
Ouais.
C'est très difficile.
C'est un moment.
On a du mal à se mettre à la place de la personne si on n'a pas vécu la même chose.
Mais vous dites c'est un moment, c'est-à-dire que potentiellement ça va passer.
Ça peut passer, mais pas du jour au lendemain.
Voilà, c'est ça, exactement. Bon, Vous lui posez la question à cette personne. Donc voilà, en fait, elle n'a pas piqué son chien, c'est une autre personne. Enfin voilà, vous imaginez, vous lui posez la question. Elle allait bien jusqu'alors, et en entrant dans le parc ou en passant dans la rue, elle s'est souvenue que c'était l'endroit préféré de sa grand-mère qui est décédée il y a 2 ans. Vous la trouvez donc en train de pleurer maintenant. Qu'est-ce que vous pensez de cette souffrance ?
Pour moi, déjà, je l'ai vécu parce que pour des raisons personnelles, et franchement, pour moi, même si c'est un parc où on aime y aller et tout, et qu'on sait que c'est l'endroit préféré d'une personne qui nous est chère, même si on sait qu'elle n'est plus là ou quoi, ce sera dur pour nous. Mm-hmm. Parce qu'on sait qu'elle a toujours aimé ce parc, elle aimait se balader, faire plein de choses dans ce parc ou quoi. Pour moi, c'est une souffrance qui est pour moi intolérable. Parce que moi, j'aurais du mal à rentrer dans ce parc parce que je vais toujours penser... à cette personne, si elle avait ses petits coins dans ce parc, on sera peut-être forcément obligé de passer par là, donc on va y penser encore plus, tout ça.
D'accord.
En tout cas,
vous, on commence un peu à glisser vers quelque chose de pathologique, quoi, où ça commence un petit peu, vous dites c'est insurmontable, c'est invivable, on commence un petit peu à glisser dans la pathologie. Hein. Ouais. Autant tout à l'heure avec le chien, finalement, bon, on peut se dire, voilà, c'est un moment difficile. Certes, ça ne retient rien, effectivement, à la douleur quand on perd quelqu'un, un défunt, etc. Mais c'est un passage. Là, on est quand même 2 ans après. Et vous la trouvez en train de pleurer. Bon, effectivement, là, on peut se dire quand même, cette personne, elle a l'air vraiment en souffrance. Ah. Ses larmes, elles ne disent pas la même chose. Alors, donc, voilà. Donc là, pareil, vous rentrez dans ce parc, vous voyez une personne qui pleure, hein, pas forcément la même, et elle vous répond qu'en ce moment, elle traverse une période compliquée et qu'elle pleure tous les jours, comme ça. Qu'est-ce que vous pensez de cette souffrance ?
Moi, je dirais que... déjà, il faut savoir qu'est-ce qu'elle endure actuellement. De ce fait-là, surtout... faut surtout pas la juger parce qu'on ne sait pas ce qu'elle vit, est-ce qu'elle est toute seule, tout ça pour endurer tout ça. Et peut-être avec son accord, lui conseiller peut-être aller voir un professionnel, toujours avec une voix, pas l'agresser, parler fort, ou plutôt une voix douce pour elle, qu'elle se sente en sécurité, dans le confort, tout ça. Et moi, je trouve que quand on parle à des gens qu'on peut voir peut-être pleurer ou que ça va pas, en fait, le ton de la voix, en fait, elle peut changer beaucoup de choses.
Donc là, effectivement, du coup, là, vous la poussez vraiment à aller voir quelqu'un. Là, pour vous, ça vous inquiète. On est clairement vers quelque chose qui est de l'ordre de la souffrance pathologique.
Parce qu'on sait pas ce qu'il y a... Parce que si ça, on la voit pendant 5 minutes, on ne sait pas ce qu'elle peut faire dans les 5 minutes qui vont suivre.
Ça, c'est
parce que, comme on dit, on parlait de tendance suicidaire. Est-ce que, après qu'on l'ait vue, est-ce qu'elle ne va pas faire une bêtise, tout ça? Donc,
elle peut être en crise suicidaire, effectivement, tout à fait. Alors, vous retournez dans ce parc. Décidément, il y a beaucoup de gens qui pleurent dans ce parc. Vous voyez une personne qui pleure, en fait c'est une personne que vous connaissez. Vous la connaissez et vous savez que c'est une personne qui habituellement n'exprime pas du tout ses émotions. Et là, vous la voyez en larmes sur un banc. Qu'est-ce que vous pensez de cette souffrance ?
Moi, je ferais comme l'exercice d'avant. Déjà, si la personne n'a pas l'habitude d'exprimer ses émotions... et que là, on la voit pleurer à chaudes larmes et tout, c'est que là, il y a vraiment un problème. C'est que il y a un mal, mais est-ce qu'il n'est pas profond ou quoi ? Faut l'aider. Que ce soit un ami ou quelqu'un de la famille, il faut savoir pourquoi il est comme ça. Et si... peut-être le diriger, si lui Oui, cette période vers un professionnel.
Ouais, exactement. Là, ce qui va être important, c'est que vous le connaissez avant et que c'est un changement. Il y a un changement qui est assez radical à travers ce... Il n'exprimait pas ses émotions, là, vous le trouvez en larmes. Ça, c'est un gros changement. Ça veut dire qu'il s'est passé un truc qui l'a suffisamment impacté pour changer sa façon d'être au monde, santé mentale, du coup. Et là, il se passe quelque chose qui mérite un petit peu notre intérêt. Donc voilà, je vous embête plus avec ce parc. Voilà, vous pouvez quand même
fermer le parc. Hein, déjà.
Voilà, faut fermer le parc. Voilà, c'était juste un petit exercice pour vous permettre de vous exprimer que la souffrance, elle peut prendre plein de formes différentes et qu'effectivement, à travers simplement des larmes, on peut voir plein de choses. S'il y a un contexte, il y a une personne, il y a plein de choses à voir. Voilà.
En tant qu'aidant, quelle posture on a? Comment on ressent les choses?
Alors c'est vrai que pour ma part, ce n'est pas une situation que je rencontre en tant que psychologue du travail, mais dans un premier temps, une posture de bienveillance absolue, c'est-à-dire en aucun cas l'idée de juger l'autre, ça peut être de l'aider à déjà pouvoir mettre des mots sur sa situation, à comprendre sa situation, à traiter la culpabilité. Puisque paradoxalement, quand on vit ce genre de situation, on peut en arriver à penser que c'est de notre faute. C'est une situation qu'on rencontre également dans d'autres problématiques. Ça peut être lié à la perte d'un emploi, par exemple. On va penser qu'on est directement responsable. Dans des situations beaucoup plus dramatiques, dans des situations de violence, notamment violence conjugale, où on finit par développer une culpabilité qui n'a absolument pas lieu d'être. Et en ce qui concerne la santé mentale, effectivement, nous l'avons dit en introduction, aujourd'hui, on peut se comparer à tellement de monde, notamment à travers le développement des réseaux, où on a tendance à penser que tout le monde va parfaitement bien, tout le monde est épanoui, tout va bien dans la vie de tout le monde, et nous-mêmes, on peut en arriver à culpabiliser finalement de ne pas réussir à atteindre cet état. Donc effectivement, en tant qu'aidant, la posture bienveillance absolue, absence de jugement, et de permettre effectivement à la personne avec laquelle on échange de pouvoir comprendre la situation qu'elle est en train de vivre, en vue par la suite de l'aider à trouver des solutions, en vue d'aller mieux dans le temps.
D'accord.
Oui, tout à fait. Moi, j'ai rapproché cette notion de, voilà, en tant qu'aidant, ben, on n'est pas forcément soignant non plus. Donc, on a un autre rôle qui est exactement celui que vous avez décrit, qui peut se décliner comme ça, mais qui est aussi celui que vous avez eu quand vous avez traversé ce parc. C'est-à-dire que vous avez réfléchi un petit peu et vous êtes dit, bon, ben, qu'est-ce que je peux faire là? Peut-être faire le lien avec des structures, faire le lien avec des professionnels. Et donc tout ça, on est dans le champ plutôt de la prévention en santé mentale. Et donc effectivement, bah, le rôle de l'aidant, ça va être, voilà, évidemment avec bienveillance, sans jugement, ce genre de choses, mais voilà, écouter, être là et arriver à orienter éventuellement vers toutes les structures. Donc là, moi, c'est là, à ce moment-là, que j'avais l'intention de parler du 3114, qui est le numéro donc, de prévention nationale, qui est en plus basé ici au CHU de Lille. Hein. C'est le docteur Notre-Dame qui a chapeauté le projet, qui fonctionne bien. C'est un numéro qui est disponible donc 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Et quand vous appelez, vous avez un professionnel de santé mentale qui est là pour vous écouter. Donc voilà, c'est à travers ce genre de structure. J'avais également noté le numéro de Léa et là, donc 0800 004 134, plus pour les populations LGBTQIA+. Voilà, pareil, numéro vert qui permet d'accueillir un petit peu cette souffrance. Et je crois que le rôle de l'aidant, il est aussi là, c'est-à-dire accueillir la souffrance pour que la personne ne se sente pas seule. Rien que votre présence en tant qu'aidant, c'est déjà énorme en fait. Ça peut être lourd, c'est pour ça qu'effectivement, souvent, il y a aussi, alors c'est plutôt les aidants dans des situations un peu extrêmes. Voilà, quand on est aidant pour un proche qui est en fin de vie, on a besoin soi-même de se faire aider. Mais voilà, on a un statut effectivement d'aidant. On n'est pas thérapeute, on n'est plus vraiment proche, mais on est aidant, quoi. Donc c'est vraiment un statut à part. Et j'avais trouvé également un exemple d'association, ça s'appelle Sentinelle des aidants. Donc ils ont un site internet, hein, Sentinelle des aidants, et qui propose des outils, éventuellement des groupes, des choses comme ça, et qui propose d'être à disposition des aidants et des gens qui sont en souffrance. Voilà.
Ça marche.
Mais que, qu'est-ce qu'un aidant peut faire est-ce qu'il doit, quand il y a un de ses proches qui ne va pas bien, est-ce qu'il doit le forcer ou est-ce qu'il doit justement se... qu'est-ce qu'il peut faire en fait ? Est-ce qu'il doit le forcer ou le laisser
C'est faire une réponse de Normand, je veux dire, ça dépend.
Ça va dépendre du danger aussi, c'est-à-dire que la personne, effectivement, quand on parle de souffrance, est-ce que c'est une souffrance qui serait due à un événement particulier ? On parlait tout à l'heure de décès. Là, effectivement, est-ce qu'il y a lieu forcément de se faire accompagner ? Non, puisque c'est une souffrance qui est légitime au regard d'un événement vécu. Si la souffrance est vraiment telle que la personne peut avoir des pensées vraiment sombres, forcer quelque part la décision peut, ça se discute, mais peut être légitime effectivement, puisqu'il peut y avoir une situation de danger où la personne peut mettre fin à ses jours. Ce sera peut-être mal vécu par la personne en souffrance, mais ça peut lui permettre, ça peut préserver sa vie tout simplement. Donc c'est une question qui est extrêmement difficile, qui va vraiment dépendre de plusieurs paramètres effectivement.
D'accord. Mais déjà être présent, c'est déjà énorme en fait. Déjà être présent, écouter, être là, pour une personne en souffrance, c'est important. Une personne qui est en souffrance, même si on peut avoir différents types de souffrance, bah voilà, en général, ce qu'on retrouve dans tout type de souffrance, c'est un grand sentiment de solitude. Donc si vous êtes là avec la personne, c'est déjà bien. Et effectivement, en fonction de la dangerosité, ben, prendre les mesures qui, si elle n'est plus en état d'être dans un discernement pour sa propre sécurité, c'est vous qui devez prendre la décision, effectivement. Après, les soins sous contrainte, c'est autre chose, mais c'est pas évident, parce qu'en général, ils sont un peu moins efficaces quand même. Hein.
Effectivement, je continuerai, c'est cette notion d'accompagner et ne pas forcément essayer de conseiller. C'est vrai que, quelle que soit notre posture, l'idée n'est pas de conseiller, mais d'être présent. Il y a une énorme différence. Quand on conseille, on essaye de fournir des injonctions. Je te conseille de, tu devrais pour aller mieux. L'idée, c'est pas ça, c'est effectivement d'être dans une écoute active, de permettre tout simplement à l'autre de bénéficier d'une présence bienveillante. Ce sera... Un apaisement qui sera bien plus important. La personne en souffrance n'est pas en quête de conseils de la part d'une autre personne, elle est avant tout en quête d'une écoute active qui va lui permettre notamment par la suite de potentiellement aller mieux, voire même trouver elle-même des solutions en vue d'aller mieux. Donc l'idée, c'est pas d'avoir peur de ne pas être à la hauteur, de ne pas avoir peur de ne pas pouvoir conseiller l'autre. Encore une fois, une simple présence bienveillante et une écoute active, c'est un énorme avantage et c'est une énorme présence à proposer à une personne qui pourrait être souffrante.
D'accord. Psychologue, psychiatre, quelle est la différence ? Qui accompagne ? Pourquoi ? Vers qui se tourner en fonction de notre souffrance mentale ?
Ok. Alors, donc psychologue, psychiatre, c'est pas du tout la même chose. Un psychiatre, c'est un docteur en médecine. Donc c'est une personne qui a fait le premier cycle d'études de médecine, donc 6 ans, plus un internat en psychiatrie, ou pédopsychiatrie si c'est un pédopsychiatre. C'est donc un diplômé de sciences biologiques et médicales. Le psychologue, lui, il a fait 5 ans d'études, mais des études de sciences humaines et sociales. Donc déjà, d'un point de vue de la formation, on n'est pas sur déjà la même longueur et on n'est pas dans le même champ non plus, pas forcément dans le même champ. L'un comme l'autre, le psychologue comme le psychiatre, quand ils sortent de la fac, ils sont psychothérapeutes. C'est comme ça, c'est décidé. On n'est pas formé pour ça, mais on a le droit d'avoir le titre. Super. Donc après, il faut se former aussi à une technique de psychothérapie. Le psychiatre, en général, bah, c'est facile, c'est tout trouvé. Comme je suis médecin, ça va être des médicaments. Mmh. Et donc, en général, le psychiatre, le pédopsychiatre, c'est plutôt quelqu'un qui va avoir dans sa valise de psychothérapeute bah, plutôt une forte présence des médicaments. Voilà. Le psychologue, lui, il n'est pas docteur, donc il n'a pas d'ordonnance et il ne peut pas prescrire. Mmh. Et donc, il ne peut pas prescrire. Ben alors, qu'est-ce qu'il va faire? Eh ben justement, il va se former à différentes techniques de psychothérapie. Et il va proposer du coup un travail donc plutôt axé autour de la parole. En général, c'est la parole. Ça peut être la transe aussi, si on est plutôt branché hypnose. Donc voilà, donc c'est vraiment deux façons différentes d'aborder les choses, parce que même en termes de conception du trouble mental, c'est deux choses différentes. C'est-à-dire que le psychiatre, pour lui, son postulat de base, c'est qu'il y a un truc dans le cerveau qui va pas bien, je vais aller mettre une petite molécule, et la petite molécule, elle va monter au cerveau, elle va changer le truc, et puis ça va aller mieux. Le psychologue, non, en fonction aussi de... Alors, je vous fais pas tout le détail, parce que sinon on est là ce soir. Mais parmi les psychologues, il y a différentes conceptions des troubles mentaux aussi, mais qui là passent plus par quelque chose qui est effectivement là et qui peut se régler par la parole. D'accord ? Pour autant, pour nos amis psychiatres qui nous écoutent, voilà, rassurez-vous, il y a quand même des psychiatres qui parlent, qui écoutent, qui réservent du temps aux gens et qui du coup se forment aussi aux techniques, aux mêmes techniques que les psychologues peuvent se former et qui finalement font le même métier que les psychologues. Mais la formation initiale et le postulat de base n'est pas le même. Quand on est psychiatre, on a accès à un carnet d'ordonnances, on prescrit. Quand on est psychologue, on n'a pas d'ordonnance, on ne prescrit pas. Voilà. Après, voilà, qui accompagne pourquoi ? Ça, c'est vraiment... C'est pas évident comme question, parce que voilà, ça veut dire que, en fait, avant d'aller consulter, vous avez déjà fait votre autodiagnostic et vous avez dit « Ah, ben moi j'ai ça, je vais aller voir ça ». Ben non, parce qu'on vient de dire que la santé mentale, c'est déjà pas évident pour soi. Ben oui, donc ça veut dire qu'on n'est pas forcément en mesure. Donc allez voir le premier, enfin, peu importe, allez, vous sentez que ça va pas, vous allez voir quelqu'un, psychiatre ou psychologue, peu importe. Allez voir quelqu'un, tapez à la porte et vous verrez bien. Et puis si ça ne va pas, bah, hop, vous pouvez changer. Ça, c'est un principe qui est important aussi à rappeler, c'est qu'on a la liberté de choix de son thérapeute. Et si on ne se sent pas bien avec un thérapeute, bah, rien n'empêche d'aller en voir. Ça ne veut pas dire qu'on va se sentir mal ou qu'on sera mal avec tous les thérapeutes. Parce que les psychologues notamment, mais les psychiatres aussi, mais de manière moins consciente, on travaille beaucoup sur la relation avec la personne. Ce qui est efficace, c'est surtout la relation, en fait. Quelle que soit la méthode, c'est beaucoup la relation. Et donc, bah, voilà, enfin... Si vous n'êtes pas bien avec quelqu'un, vous changez. Mais ce qui est important, c'est de faire ce pas-là. Ce qu'on a dit tout à l'heure, quand on a évoqué la notion de tabou, voilà, faut casser le tabou, il faut y aller. Hop, vous, ça ne va pas bien, vous consultez, que ce soit l'un ou l'autre.
D'accord.
Voilà.
J'ai absolument rien à rajouter. C'était très complet. Réponse très complète.
Donc, en fait, vous dites que le psychiatre est plus médicament. Mais quand on n'a pas le, est-ce qu'il n'y a pas d'autres moyens de manière générale de traitement, comme des thérapies de groupe ou en fonction bien évidemment de la pathologie.
Je vais me permettre une petite comparaison. Effectivement, la question, c'est de savoir s'il n'y a pas d'autres solutions que les anxiolytiques. Alors évidemment, en tant que psychologue, je vais prêcher pour ma paroisse, bien évidemment. À mon sens, le médicament n'est jamais une solution. J'aimerais vous donner un élément de comparaison. Supposons que nous allions dans le parc mentionné par François tout à l'heure, le parc de tous les malheurs, et que suite à une balade en vélo, je chute et je me fracture la jambe. J'ai mal en marchant. Ce que je pourrais faire, c'est prendre des antidouleurs. Ne pas forcément aller à l'hôpital, me dire que ça passera tout seul et me contenter de prendre des antidouleurs encore. Je vais peut-être réduire à court terme la souffrance. Ça va me permettre d'aller mieux quand je marche. Malgré tout, il y a un problème de fond qui ne sera jamais résolu. En revanche, ce que je peux faire aussi, c'est aller à l'hôpital, me faire soigner, pourquoi pas me faire plâtrer. Et si la douleur est vraiment insurmontable à un moment donné, prendre un médicament pour atténuer la douleur. La solution anxiolytique, ce serait ce médicament pour soigner la douleur. Le fait d'aller à l'hôpital, ce serait le fait, pourquoi pas, de se faire accompagner par un thérapeute en vue de comprendre le problème de fond pour trouver une solution durable sur long terme.
D'accord.
Donc, à mon sens, effectivement, la solution anxiolytique peut être utile pour atténuer la douleur, mais ne constitue en aucun cas une solution durable. Dans la mesure où, si l'altération de la santé mentale a une cause précise, tant qu'on ne traite pas la cause précise, on ne pourra jamais résoudre le problème de fond.
D'accord.
Ouais. Effectivement, en fait, le traitement, en l'occurrence, il est symptomatique. C'est-à-dire que On peut prendre un autre exemple encore, un peu bête, mais voilà, il y a un incendie dans la maison, vous trouvez qu'il fait trop chaud, vous ouvrez la fenêtre. Bah oui, mais si vous n'éteignez pas l'incendie, il va faire toujours aussi chaud, hein. Et même de plus en plus chaud, parce que vous faites un appel d'air. Donc, mais en gros, c'est ça, c'est-à-dire que le médicament en soi, il répond aux symptômes, c'est-à-dire à la sortie du truc, mais il ne va pas forcément aller à l'origine de ce qui trouble, du mal-être. Ouais. Après, c'est rigolo parce que j'ai presque le même genre de métaphore pour les médicaments, parce que moi, dans ma clinique, dans ma clinique pratique tous les jours, je veux dire, il y a souvent des gens qui ont un petit peu ce mouvement de recul quand le médecin, que ce soit psychiatre ou que ce soit médecin généraliste, d'ailleurs, il prescrit des anxiolytiques. Et souvent, les gens, effectivement, disent « j'ai pas trop envie de prendre des médicaments, j'aime pas trop, ça me dit, je suis pas trop rassuré à l'idée de… » Bon, voilà. Alors, je sais pas pourquoi vous avez posé cette question-là, mais sans doute que vous avez les mêmes inquiétudes. Voilà, l'idée que, voilà, je vais prendre un médicament, mais voilà, je vais peut-être devenir dépendant, ou voilà, enfin… ce spectre de questions qui alimente de l'angoisse, forcément. Qui rajoute de l'angoisse à l'angoisse. Enfin bref. Et moi, ce que je dis, ce que j'explique à ces personnes qui me consultent, bon, déjà, si elles me consultent, je suis quand même rassuré en me disant bon, bah, ça va, au moins elles viennent, ça veut dire que globalement, voilà, peut-être que le médicament, elles n'en ont pas forcément besoin. Mais je leur dis bon, alors je reprends l'image de la jambe cassée, je leur dis voilà, vous êtes cassé la jambe, vous êtes plâtré. Vous pouvez, c'est un plâtre de marche, vous pouvez continuer à marcher, hein, effectivement. Bon, ce sera un peu compliqué, mais vous pouvez marcher. Avec des béquilles, ce sera plus simple quand même de marcher, hein. Béquilles et plâtre. Pour moi, les médicaments, c'est la béquille, en fait. C'est-à-dire que le médecin, s'il a évalué et s'il a estimé que c'était opportun de mettre en route ce médicament pour vous aider... Pourquoi se priver et pourquoi galérer avec votre pied plâtré à essayer de marcher et pas bien tenir? Prenez une béquille, vous pouvez prendre, elle est là. Pourquoi pas? Après, moi, c'est pas mon travail, c'est ce que je leur dis aussi. Moi, les médicaments, je sais pas, je fais pas. C'est votre médecin qui doit prendre la décision. Mais si votre médecin a pris la décision, considérez pas ça forcément comme effectivement une fin en soi. Considérer ça peut-être comme une béquille, enfin un truc qui peut quand même aider, quoi, parce que quand on a un pied plâtré, c'est la galère de marcher, quoi. Et donc voilà, je pense qu'il faut pas non plus se dire que voilà, les médicaments, non.
Donc en fait, le médicament, c'est plus on compare à une personne comme un aidant. Mm-hmm. C'est pas une solution en soi, mais plus un aidant. Enfin, d'après ce que moi je comprends.
En fait. D'après ce qu'on vous a dit, oui.
D'accord.
Mais je peux rajouter encore pour vous dire que non, en fait. Hein, si vous voulez, je peux développer encore dans l'autre sens et vous dire qu'en fait, simplement en aidant la personne à être moins anxieuse, on va peut-être résoudre son problème aussi. Ouais. Et donc finalement, on se retrouve un petit peu avec le serpent qui se mord la queue parce qu'on vient de vous dire exactement l'inverse. Mais voilà, le médicament, effectivement, c'est pas, disons que voilà, en automédication, ça c'est sûr, non. Enfin voilà, c'est non. Faut passer par un professionnel de santé, médecin généraliste, psychiatre, etc. Ça c'est sûr, faut que ce soit quand même vu par un médecin. Après, voilà, si vous trouvez que le médecin, il a la prescription facile, voilà, c'est à discuter avec lui parce qu'ils peuvent aussi, prendre du temps pour discuter avec vous et puis vous expliquer un petit peu pourquoi est-ce qu'ils choisissent ça pour vous. C'est vrai que c'est un autre débat, ça, mais il y a les labos pharmaceutiques derrière, quoi.
Mais le médicament, c'est plus sur du court terme. Mmh. Le mieux, en fait, c'est de voir d'aller voir quelqu'un.
Ça dépend quel type de médicament. Il y a des médicaments qui sont une béquille à vie, parfois. Ça dépend. Ça dépend de quel type de médicament on parle, de quel contexte on parle. Si c'est un médicament anxiolytique qui a été prescrit parce qu'il y a un événement X ou Y, perte d'emploi ou deuil ou je ne sais quoi. Enfin, oui, a priori, c'est pas là pour durer parce que la personne, heureusement, elle a les capacités de résilience pour passer cette épreuve. Mais il y a des médicaments, non, il y a des médicaments, des substances qui sont, et heureusement, qui existent et qui sont là vraiment pour aider la personne et dont elle ne pourra pas se passer. D'accord. Voilà.
Puis effectivement, il me paraît nécessaire de rappeler que, quelle que soit la prise de médicaments, elle doit toujours être contrôlée en termes de quantité et de durée. Effectivement, ça se réalise via la prescription du psychiatre ou du médecin, mais un surdosage de médicaments n'est jamais bon. Et lorsque le traitement est censé être terminé, effectivement, parfois, on peut peut-être ressentir d'autres formes de souffrance. Ça ne veut pas dire qu'il faut poursuivre le médicament en auto, en traitement automédicalisé. C'est après à bannir, effectivement. Ça se fait toujours via l'accord d'un médecin, que ce soit pour le commencer, mais également pour le continuer. Donc, ne jamais surdoser en termes de quantité, mais également en termes de durée.
Il ne faut pas oublier le 3114, donc le numéro unique en France qui est au CHR. Surtout, si ça ne va pas, téléphonez, vous serez accueilli par des professionnels, donc faites-le si ça ne va pas.
Mais effectivement, on peut peut-être créer une ouverture aussi sur une autre question. On n'aura pas le temps de l'aborder en profondeur tant le sujet est vaste aussi, mais on parlait aussi de comment ne pas altérer quelque part sa santé mentale. Mais la question qu'on pourrait se poser aussi, c'est comment la préserver, comment justement s'épanouir, comment être dans le mieux-être constant et pas dans l'absence de mal-être. Puisqu'effectivement, pour reprendre la définition de l'OMS, ça ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité, mais il y a réellement une valence positive à la santé mentale, qui est liée notamment à l'épanouissement personnel, professionnel, social. Peut-être qu'on peut aborder le sujet, ou peut-être que ça peut faire l'objet d'un autre podcast qui serait tout aussi intéressant.
Que nous touchons à la fin de notre podcast. Un grand merci à Benjamin et à François d'être venus.
Merci à vous.
Merci à vous.
Merci pour votre participation. Nous étions très heureux de vous accueillir et pouvoir échanger sur le sujet qui n'a pas toujours été simple à aborder.
Merci à nos auditeurs, auditrices de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à venir au centre social si vous souhaitez réaliser d'autres contenus sur le sujet ou bien sur d'autres thématiques.
À bientôt sur la web radio du Chemin Rouge.
Au revoir.